Ladies and gentlemen, the purpose of this film is to give a brief summary of
the Nous avons choisi pour une mission qui est de la plus grande importance. Vous suivrez donc mes directives et mes seules directives.
Sidney Reilly. Cet agent britannique, qui a espionné de la fin du 19e siècle jusqu'en 1925, est devenu dès les années 30, grâce à la littérature et au cinéma, un personnage de légende, un véritable mythe de l'histoire de l'espionnage.
Is True Spies. Episode 96. The Ace of Spies.
Surnommé l'As des espions, c'est lui, dit-on, qui a inspiré à Ian Fleming son personnage de James Bond.
Je m'appelle Bond. James Bond.
Comme l'agent 007, Sidney Reilly a la réputation de réussir toutes ses missions, d'être partout où on ne l'attend pas, d'échapper à des situations en apparence inextricables. Il a aussi son charme et son sex appeal.
Oh!
Hello.
Aren't you in the wrong room, Mr. Bond?
Puisque Reilly, toute sa vie, a multiplié les maîtresses et même les épouses, parfois simultanément. Mais la comparaison s'arrête là. Reilly, qui dit-on possédait 11 passeports, était un roi du pas de côté, proposant ses services aux plus offrants, que ce soit le Japon, l'Allemagne ou la Russie. D'ailleurs, pour l'argent, sa principale motivation, il était prêt à tout, escroquer, arnaquer et même le pire, à tuer. Empoisonné, poignardé, tiré au revolver ou étranglé, des techniques qu'il maniait avec beaucoup de sang-froid. C'est tout le paradoxe du futur Sidney Reilly. Il sera espion, doué et apprécié, mais aussi un authentique escroc et même un criminel. D'ailleurs, son espionnage sera toujours motivé plus par l'appât du gain que par des considérations patriotiques ou idéologiques. Envoyé aux quatre coins du monde, en Russie, en Mandchourie, en Allemagne déguisé en ouvrier, sur la Riviera déguisé en curé, cet espion inventif, courageux et pragmatique, un des premiers agents du Secret Intelligence Service, s'est illustré dans les conflits des premières années du XXe siècle, mais surtout en 1918, quand il a été envoyé à Petrograd, mettre un terme à la révolution bolchévique et faire revenir la Russie dans la guerre auprès de ses alliés. Sidney Reilly a même été impliqué dans une tentative d'assassinat de Lénine. Un échec, mais on le verra, les soviétiques ne le lui pardonneront pas. Difficile de raconter la vie de cet homme qui n'a cessé de multiplier les identités, de brouiller les pistes et de mentir sur son passé. Le plus souvent, Sidney Reilly affirme qu'il est irlandais. Son nom semble accréditer cette thèse. Né à Dublin ou à Tipperary, il dit être le fils d'un capitaine irlandais, quand ce n'est pas d'un clergyman. Selon les situations, il dit aussi que son père était un aristocrate russe, ayant ses entrées à la cour du tsar. Par chance, les nombreux historiens qui, depuis un siècle, se penchent sur ce curieux personnage ont fini tant bien que mal par démêler le vrai du faux. Son identité, d'abord. Sidney Reilly est le nom très officiel qu'il portera toute sa vie. Mais c'est un nom d'emprunt. À sa naissance, rien à voir, il s'appelle Shlomo Rosenblum. Un nom qui évoque plus le shtetl d'Europe orientale que la verte Irlande. D'ailleurs, sa nouvelle identité lui a sans doute offert du répit.
En Europe, les Britanniques sont les seuls à détester les Irlandais, tandis que tout le monde déteste les Juifs.
Shlomo Rosenblum serait né en 1874 dans une famille juive d'Ukraine et aurait grandi à Odessa, ville florissante et cosmopolite, grand port sur la mer Noire. Quant à son éducation, il affirmera toujours être parti à Vienne, en Autriche, pour étudier la chimie. Un joli roman qu'aucune preuve ne viendra étayer. Seule certitude, en 1895, Shlomo Rosenblum doit quitter précipitamment l'Empire russe dont fait alors partie l'Ukraine. Le jeune homme de 20 ans, mêlé, semble-t-il, à des actions d'étudiants radicaux, est sur le point d'être arrêté par l'Okhrana, la terrible police secrète du Tsar, quand, in extremis, il réussit à embarquer clandestinement vers la France, terre de refuge alors pour les exilés russes, qu'ils soient politiques ou juifs victimes de pogroms. En 1895, c'est la première des nombreuses fuites que notre futur espion connaîtra dans sa vie. Mais au bout de quelques mois seulement en France, Shlomo Rosenblum doit à nouveau fuir. La police française est à ses trousses. Il est soupçonné du meurtre dans un train de deux anarchistes italiens qu'il aurait égorgés afin de les voler. Rosenblum réussit à échapper à la police française et, traversant la Manche, file en Angleterre, où en 1896, il débute une nouvelle vie. À Londres, il ouvre une pharmacie, à l'enseigne Rosenblum & Company. Et lui, qui, vous vous souvenez, ne possède aucun diplôme, réussit à se faire admettre dans l'honorable société des chimistes anglais. En guise de chimie, le faux pharmacien s'occupe surtout à fabriquer et vendre des pseudo-médicaments miracles. Mais cela ne lui suffit pas, il a besoin de plus d'argent. Et c'est l'espionnage qui bientôt va lui en fournir. D'abord en tant qu'indique pour un policier de Scotland Yard, William Melville, un fin limier qui le paye pour surveiller de près les révolutionnaires russes émigrés à Londres.
Vous suivrez donc mes directives et mes seules directives.
C'est ce même Melville qui, en 1909, créera le premier service de renseignement britannique. À Londres, Shlomo Rosenblum fait une autre rencontre qui sera bientôt décisive, juteuse même. Un couple, le très respectable révérend Thomas et sa jeune épouse Margaret. Margaret, qui très vite tombe dans les bras de Rosenblum. Mais comment aurait-elle pu résister ?
Je veux absolument voir cet homme extraordinaire. Montrez-le-moi. Où est-il ?
L'homme élégant, au teint basané.
À la grande bouche et au regard doux et mélancolique.
Oh, ne vous fiez pas à ce regard, Mrs. Chambers. Ce sont les yeux les plus pénétrants que je connaisse.
Mince, toujours élégant en effet, cheveux noirs tirés en arrière, regard de braise, Rosenblum, très sûr de lui, a le charme ténébreux d'un danseur de tango, voire d'un parrain de la mafia, style Al Pacino. Coup de théâtre, le 12 mars 1898, le vieux révérend est retrouvé mort dans son lit. Ceci explique-t-il cela ? Quelques jours auparavant, le mari attentionné avait établi un testament en faveur de sa jeune épouse.
Tu lui as donné le laudanum ?
Presque toute la bouteille.
C'est bien. Tu as été courageuse.
La veuve, qui hérite d'une jolie fortune, organise en hâte l'enterrement sans laisser le temps d'effectuer une autopsie. Et 5 mois plus tard, Shlomo et Margaret se marient. Pour l'instant, le bonheur semble parfait. Mais Rosenblum apprend que l'Okhrana a envoyé à Londres des agents pour l'arrêter. Il le soupçonne d'appartenir à un réseau de faux monnayeurs qui fabriquent de faux roubles. William Melville, qui tient à son meilleur agent, décide de le mettre au vert. D'abord, il faut changer son identité, trop voyante. Shlomo Rosenblum prend alors le nom de jeune fille de sa femme, Riley, typiquement irlandais, et un prénom, Sidney, qui au moins lui permet de garder ses initiales d'origine, S.R. Ce changement d'identité est officialisé par un vrai passeport. Shlomo Rosenblum est mort, vit Sidney Riley, authentique citoyen britannique. Et enfin, Melville envoie son agent en mission, loin, très loin de l'Angleterre, en Extrême-Orient. En juin 1899 donc, Sidney Riley et Margaret embarquent pour un long voyage. Constantinople, Port Saïd en Égypte, le canal de Suez, Colombo au Sri Lanka, Singapour, Hong Kong, Shanghai, avant de repartir vers Port Arthur en Mandchourie, où ils arrivent au début de l'année 1901. Surnommé le Gibraltar de l'Extrême-Orient, Port Arthur appartient depuis 3 ans à l'Empire russe. Mais cette base militaire et navale hautement stratégique, qui donne accès à la mer de Chine, est convoitée par l'autre grande puissance régionale, le Japon. Entre les deux pays, l'imminence d'une guerre ne fait pas de doute. Sidney Riley va rester 4 ans à Port-Arthur, où il exerce le métier de négociant en bois et en armes. Une couverture, mais aussi une activité commerciale bien réelle, où il va gagner beaucoup d'argent. Sa mission secrète est de recueillir des renseignements sur la base russe. En janvier 1904, il réussit à envoler les plans de défense, des plans ultra-secrets qu'il transmet aux Britanniques, mais aussi, plus surprenant, aux Japonais, qui peuvent désormais planifier une attaque, ce qui semble impensable aux Russes.
Mon général, les derniers renseignements fournis par le chef du contre-espionnage, commandant Vassilou, confirme une mobilisation japonaise imminente.
Dirigée contre nous ?
Sûrement, mon général. Les derniers mouvements de leur escadre ne permettent aucun doute.
Ces informations sont exagérées. Jamais ils n'oseront. Ce serait un suicide.
Torpilleurs ! Lâchez !
Dans la nuit du 8 au 9 février 1904, la flotte japonaise lance une attaque surprise sur Port-Arthur grâce au plan volé par Riley, qui leur permettent de naviguer en sécurité au milieu des mines qui protègent la base.
La première armée japonaise a coupé toutes les communications avec notre armée du Nord. Dans ces conditions, nous abandonnons la liaison avec Port-Arthur. Informez d'urgence le commandement de Port-Arthur que la ville sera encerclée et qu'il aura pour tâche de retenir le cours de l'armée japonaise.
C'est le début d'un siège qui durera 7 mois et d'une guerre, la guerre russo-japonaise, très meurtrière, qui se terminera 1 an et demi plus tard par la victoire du Japon. Pourchassé par les Russes qui suspectent son rôle dans la chute de Port-Arthur, Sidney Riley prend la tangente. Mais l'agent double fait d'abord un bref et discret détour par Tokyo pour toucher sa prime, avant de rentrer en Europe, en compagnie d'une dame qui, vous le devinez, n'est pas Margaret. Cela fait d'ailleurs quelques mois que Margaret est rentrée en Angleterre, lassée du climat de Port-Arthur et sans doute aussi des incartades de son mari volage. Arrivée à Paris en juin 1904, Sidney Riley retrouve avec plaisir son vieil ami William Melville. Le chef du renseignement britannique, qui ne l'a pas oublié, lui confie une nouvelle mission délicate et stratégique, la mission Darcy. En ce tout début du XXe siècle, le gouvernement de Londres prend conscience que l'énergie du futur n'est plus le charbon, mais le pétrole.
Je dois attirer votre attention sur l'importance que le pétrole va prendre dans les prochaines décennies en tant que principale source d'énergie. Si nous voulons survivre en tant que grande puissance, nous devons avoir les armes qui soient aussi rapides et perfectionnées que celles des autres puissances.
Le pétrole, une matière première que, contrairement au charbon, la Grande-Bretagne ne produit pas. Il est donc vital d'assurer à son économie des approvisionnements importants et réguliers. Dans ce contexte, Londres apprend qu'un jeune milliardaire anglo-australien, William Darcy, vient de négocier les droits d'une concession de pétrole en Iran. Pour Londres, il est urgent d'inciter Darcy à vendre aux Britanniques les droits pétroliers qu'il vient d'acquérir. Et non à la France, représentée par la banque Rothschild, qui au même moment fait les yeux doux au milliardaire. William Melville et son agent Sidney Riley sont donc chargés secrètement d'aller inciter Darcy à faire affaire avec les Britanniques. Se faisant passer pour de simples touristes, les deux espions quittent Paris pour la Côte d'Azur, la Riviera, comme on dit à l'époque. Ils descendent au Grand Hôtel à Cannes. Ils le savent, c'est dans ce palace, le premier construit sur la croisette, que William Darcy et le Français Alphonse de Rothschild doivent se rencontrer. Des années plus tard, quand il sera en Russie avec son collègue espion Bruce Lockhart, Sidney Riley lui racontera comment il s'y était pris à Cannes pour approcher Darcy. Déguisé en prêtre catholique, sous le prétexte de collecter des dons pour une organisation caritative, il aurait réussi un soir à s'introduire sur le yacht des Rothschild qui donnait une réception. Le faux prêtre, vrai espion, aurait alors entraîné Darcy dans un coin du yacht pour le convaincre.
Mr. Darcy.
Mr. Darcy.
Vous avez
trouvé ça ridicule, mais...
Mon
nom est Riley. Je suis un agent du renseignement britannique. Ils veulent mettre fin à vos négociations avec les Rothschild et arriver à un accord avec les banques britanniques. Ils en appellent à votre sens du devoir.
Bien. Vous arrivez trop tard. Étiez-vous arrivé à un accord ?
Non, mais il n'y a pas de raison de penser que nous n'y arriverons pas ce soir.
Si vous tenez à la vie, vous devriez quitter ce navire, Mr. Riley.
Mais Sidney Riley, habile et tenace, aurait finalement réussi à convaincre William Darcy d'aller à Londres conclure son contrat avec les Britanniques. Un récit amusant, mais si rocambolesque qu'on a du mal à y croire. Il est plus probable que ce soit William Melville qui ait été à la manœuvre. Riley, après coup, se serait donné le beau rôle. En revanche, on en est sûr, il séjournait bien à Cannes ce jour-là. Outre la question cruciale du pétrole, dans ces premières années du XXe siècle, les Britanniques s'intéressent de près à la politique de réarmement de l'Allemagne de Guillaume II, qui ne cache pas ses ambitions belliqueuses. C'est dans ce contexte qu'en 1909, le tout nouveau SIS, Secret Intelligence Service, créé par William Melville, envoie son meilleur agent en Allemagne obtenir du renseignement sur les différentes armes fabriquées dans les usines de guerre Krupp, où des milliers d'ouvriers s'activent à produire les canons qui font alors la réputation de la firme. Sidney Riley, qui a l'avantage de parler allemand, doit se faire embaucher dans l'usine Krupp en se faisant passer, non plus pour un curé, mais pour un ouvrier soudeur. Avant de partir, pendant plusieurs mois, il apprend la soudure dans une usine anglaise. À son arrivée à Essen, dans la Ruhr, Riley, en casquette et bleu de travail, devient soudeur à l'usine Krupp sous le nom de Karl Hahn. Pour mener à bien sa mission, Riley a l'idée ingénieuse de se faire engager dans la brigade des pompiers de l'usine et de suggérer que soient établis des plans indiquant l'emplacement des extincteurs en cas d'incendie. Des plans qui, surtout, lui permettront de situer les lieux de fabrication des différents armements. Le contremaître accepte, mais garde précieusement dans son bureau les plans, pièces stratégiques de la firme Krupp. Une nuit, Riley, alias Karl Hahn, crochette la serrure du bureau et s'apprête à mettre la main sur les plans quand le contremaître surgit. Riley, qui, je vous le rappelle, n'hésite pas à tuer si besoin, en un clin d'œil se jette sur le contremaître et l'étrangle. L'espion s'empare des plans, quitte précipitamment l'usine et monte dans un train. Il réussira à rejoindre l'Angleterre et à livrer ses précieux plans. Mission accomplie. Et dans les années qui précèdent la Première Guerre mondiale, que fait Sidney Riley ? On sait qu'en 1912, il vit en Russie.
Cher Sidney, vous êtes un des hommes d'affaires les plus remarquables de Saint-Pétersbourg.
Toujours espion, en parallèle à ses activités commerciales lucratives, il mène la belle vie avec sa nouvelle épouse, Nadezhda Zaleski, sans avoir pris la peine, est-ce bien utile, de divorcer de Margaret. Mais le 28 juin 1914, l'archiduc François Ferdinand, l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, est assassiné à Sarajevo. Sidney Riley, qui est en vacances avec Nadezhda sur la Riviera, se dépêche de rentrer en Russie. L'heure est grave, en effet. En l'espace de 6 semaines, l'attentat, par une réaction en chaîne, va déclencher la Première Guerre mondiale. 1er août 1914.
C'est la guerre ! Nous sommes en guerre contre l'Allemagne ! Ils vont sonner les cloches de l'église à 6 heures ce soir ! Et ne les referont plus jamais sonner jusqu'à ce que la guerre soit terminée !
Thank you. Sidney Reilly, âgé maintenant de 40 ans, la Première Guerre mondiale sera surtout l'occasion inespérée de faire fortune, moins dans l'espionnage que dans la vente d'armes. Des armes et des munitions qu'il achète aux États-Unis et qu'il se charge de vendre aux belligérants, la Russie bien sûr, alors alliée de la France et du Royaume-Uni. Mais il fait affaire aussi avec leur ennemi, l'Allemagne impériale. Un business qui pourtant deviendra moins rentable en 1917 quand le Congrès des États-Unis annonce l'entrée en guerre contre l'Allemagne.
Attendu que le gouvernement impérial allemand a commis des actes d'hostilité répétés contre le gouvernement et le peuple des États-Unis, il est décidé par le Sénat et la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique, assemblés en Congrès, que la guerre entre les États-Unis et le gouvernement impérial allemand, provoquée par le fait de celui-ci, est, par les présentes, formellement déclarée.
Avec l'entrée en guerre des États-Unis en avril 1917, désormais, la vente d'armes américaines à l'ennemi allemand est interdite. Une grosse perte pour Sidney Reilly. Et comme si cela ne suffisait pas, un second événement, la même année, va lui faire perdre un autre gros marché, la Russie. L'Empire russe est engagé depuis le début de la guerre aux côtés des Français et des Britanniques, prenant ainsi en tenaille les empires allemands et autrichiens. Mais, côté russe, les défaites s'accumulent ainsi que les lourdes pertes humaines et territoriales, tandis que l'armée est minée par les désertions et les mutineries.
Envoie les gars, n'y allez pas ! C'est fichu !
Faites demi-tour !
Allez, restez avec nous !
N'allez pas vous faire prévenir !
C'est foutu !
Faites
demi-tour, les gars !
En octobre 1917, profitant de la faiblesse du gouvernement provisoire, les bolcheviks s'emparent du pouvoir à Petrograd, avec à leur tête Lénine. Un des premiers décrets signés par Lénine, le décret sur la paix, appelle à mettre fin au plus vite au combat, ce qui sera acté le 3 mars 1918 par le traité de Brest-Litovsk, un accord très avantageux pour l'Allemagne. Désormais libérés de leur front oriental, les Allemands peuvent concentrer leurs forces à l'ouest. Fragilisés, les Alliés veulent à tout prix empêcher le retrait russe de la guerre et empêcher aussi que la révolution communiste ne se répande en Europe. Et Sidney Reilly, que devient-il pendant ce temps? Il vit toujours à New York. Mais maintenant que la Russie ne lui achète plus d'armes ni de munitions, ses affaires se portent très mal. Reilly se met alors en tête de reprendre du service dans le renseignement. Il rencontre le correspondant à New York de l'Intelligence Service, qui, visiblement impressionné, lui fournit une lettre de recommandation pour Mansfield Cumming, l'Anglais qui a pris la succession de Melville à la tête du renseignement britannique. C'est donc avec joie que Sidney Reilly, en 1918, traverse l'Atlantique pour rejoindre la Grande-Bretagne, son pays d'adoption qu'il avait quitté précipitamment 13 ans plus tôt. Arrivé à Londres, Reilly se rend le long de la Tamise à Whitehall Court, le bâtiment du SIS, qui au tout dernier étage abrite le bureau de Cumming. Cumming, un étonnant personnage qui inspirera à Ian Fleming, celui de M, le chef de James Bond. Cet ancien officier de marine, qui adore montrer sa jambe de bois, signe ses documents de la lettre C, son nom de code, si possible à l'encre verte. Personnage fantasque, mais aussi maître espion très efficace. Lors de cette première rencontre, Reilly fait une impression mitigée à Cumming. Mais comme les Britanniques sont pressés d'obtenir du renseignement en Russie et que les agents parlant le russe ne courent pas les rues, Cumming prend le risque de l'engager.
Vous avez été désigné pour partir en Russie soviétique. La Russie cesse de combattre contre l'Allemagne. Il faut contrecarrer absolument le travail des agents allemands en Russie.
Reilly prête serment au SIS. Fini le temps de l'espionnage au coup par coup, grassement payé, Reilly est maintenant un espion à plein temps, un espion de Sa Majesté. Entre-temps, le SIS a demandé à Dublin de vérifier l'état civil de Reilly, qui affirme, vous vous souvenez, être né en Irlande. Les Irlandais répondront n'avoir trouvé aucune trace de lui dans les registres. Mais trop tard, Riley a déjà embarqué sur le Queen Mary, le navire qui le conduit en Russie. En avril 1918, Riley débarque à Mourmansk, ce port russe situé sur la mer de Barents, au nord du cercle arctique.
Vous allez à Petrograd aussi ?
Oui.
Oh, parfait, magnifique ! Il y a de grandes choses là-bas !
À son arrivée à Petrograd, l'espion prend contact avec Bruce Lockhart, un diplomate britannique qui a été envoyé en Russie quelques mois plus tôt pour tenter de convaincre les Soviétiques de ne pas signer de paix séparée avec l'Allemagne et de poursuivre la guerre. Et maintenant que le traité de Brest-Litovsk a été signé, Lockhart et Riley comprennent qu'il faut passer à la vitesse supérieure.
J'ai reçu des ordres du Premier ministre britannique de faire ce que je pense nécessaire afin de faire tomber Lénine.
La tentative de renversement du gouvernement bolchévique est considérée comme l'exploit le plus audacieux de Sidney Reilly et de Bruce Lockhart. Même si ce dernier, des années plus tard, en rejettera toute la responsabilité sur Reilly. Avec la bénédiction et le financement de Londres, ils vont organiser un coup d'État, c'est ce qu'on appellera le complot des ambassadeurs. La mission hautement périlleuse de Riley est d'établir des contacts dans les cercles anti-bolcheviques qui existent encore en Russie, alors en pleine guerre civile. Grâce à de faux papiers, l'espion se fait passer pour un agent de la Tcheka, la police secrète soviétique, ce qui lui permet de circuler librement. En mai 1918, il rencontre notamment Boris Savinkov, un ancien ministre du gouvernement Kerensky, devenu un opposant virulent des bolcheviques.
Savinkov, le célèbre terroriste socialiste révolutionnaire, est l'exception. Nous devons réveiller et grouper tous les anti-bolcheviques.
En juin, les Britanniques apprennent que de plus en plus de fusiliers lettons sont mécontents du pouvoir. Commandés par le colonel Berzin, les régiments de fusiliers lettons sont réputés pourtant s'être rangés pendant la révolution du côté des bolcheviques. Ils forment même leur garde prétorienne, chargée notamment de la protection du Kremlin et de Lénine. En étroite collaboration avec l'attaché naval britannique à Petrograd, Francis Cromie, Riley organise des rencontres secrètes avec les fusiliers lettons et leur chef pour planifier le coup d'État. Le complot a un coût. Riley affirme dépenser plus d'1 million de roubles pour corrompre les soldats. Le coup d'État est prévu pour le 6 septembre, à Moscou, au théâtre Bolchoï, qui ce jour-là doit donner un étonnant spectacle, la réunion du Conseil des commissaires du peuple et du Soviet de Moscou. En présence des deux principaux chefs bolcheviques, Lénine et Trotsky, que les comploteurs entendent bien capturer. Les capturer et, s'il le faut, les assassiner. Mais une semaine avant, le 30 août 1918, deux attentats totalement inattendus vont anéantir le scénario de Riley et Lockhart. D'abord, l'assassinat du chef de la Tcheka de Petrograd, et surtout le même jour, une jeune militante socialiste révolutionnaire, Fanny Kaplan, a été chargée de tuer Lénine.
Nous voulons que tu tues Vladimir Ilyitch.
Qu'est-ce que vous avez dit ?
Lénine a trahi notre révolution. Lénine doit mourir. Et c'est toi, Fanny Kaplan, qui va l'exécuter. Compris ?
Elle tire à deux reprises sur le leader bolchévique. Gravement blessé, il échappera de très peu à la mort. Ces attentats n'ont sans doute rien à voir avec le complot de Riley et Lockhart. Mais la riposte des bolcheviques est immédiate et terrible. Des milliers d'opposants, réels ou supposés, sont arrêtés, massacrés ou envoyés dans des camps. C'est le début de ce qu'on appelle la terreur rouge. Le lendemain, à Petrograd, un détachement de la Tcheka, chargé de nettoyer les nids de conspirateurs, attaque le consulat britannique.
Vous n'avez pas le droit d'être ici. C'est un territoire britannique.
L'attaché naval, Francis Cromie, est abattu alors qu'il tente de s'interposer. Bruce Lockhart, lui, est arrêté et conduit à la Lubyanka, la prison de la Tchéka. Interrogé, il nie l'existence d'un complot. L'Anglais s'attend à être fusillé. Finalement libéré, Lockhart sera échangé contre un attaché soviétique arrêté à Londres. Mais la plupart des personnes impliquées dans le complot seront emprisonnées, torturées et exécutées. Mais comment la Tchéka a-t-elle eu vent du projet de coup d'État ? Il est possible que Berzin, le commandant des fusiliers lettons, ait fait semblant de s'allier aux conspirateurs et ait informé la Tchéka. Et Sidney Reilly, où est-il ? Dès le 1er septembre, la presse russe ne parle que du complot Lockhart et présente Reilly comme l'un des principaux comploteurs. Si les deux maîtresses, qu'il a eu le temps de courtiser depuis son arrivée en Russie, sont-elles arrêtées et emprisonnées, Reilly, lui, est introuvable. La Tchéka le recherche partout, nuit et jour. Dans les rues de Petrograd, sa photo est placardée avec la promesse d'une récompense. Mais encore une fois, Reilly a réussi à s'envoler. On l'apprendra plus tard, grâce à un faux passeport et un énième déguisement, Reilly a pu rejoindre les Pays-Baltes, la Finlande, puis la Suède. Et le 8 novembre 1918, Reilly arrive indemne à Londres. Un mois plus tard, l'espion apprend qu'en Russie, un tribunal révolutionnaire l'a condamné à mort par contumace. Avec cette précision, la peine devra être exécutée immédiatement si Reilly vient à être appréhendé sur le territoire soviétique. Mais cette menace n'arrêtera pas l'espion ni le renseignement britannique, qui en 1925 charge Sidney Reilly de retourner en Russie afin d'organiser la résistance anti-bolchévique. Les Britanniques n'ont en effet pas abandonné l'idée de renverser le régime soviétique. Il s'agit d'appuyer les nombreux groupes monarchistes et contre-révolutionnaires qui continuent de mener des opérations clandestines contre le gouvernement, dirigé maintenant par Staline, qui a succédé à Lénine. Mais, Reilly l'ignore, il va être victime d'une des plus magistrales opérations de désinformation de l'histoire de l'espionnage, ce qu'on appelle l'opération Trust.
Le Trust est une organisation piège, inventée par le GPU.
Il s'agit d'un faux réseau d'opposition mis en place par la GPU, le nouveau nom de la Tchéka, qui cherche à identifier et neutraliser les opposants au régime soviétique et à piéger les espions étrangers qui voudraient les aider. Cette organisation Trust prétend être un groupe puissant de monarchistes anti-bolcheviques prêt à coordonner un soulèvement avec l'aide des Britanniques et des Russes blancs exilés. En septembre 1925, donc, Sidney Reilly se rend en Finlande afin de rencontrer à la frontière avec la Russie des envoyés de l'opération Trust. L'espion, qui n'oublie pas qu'il est depuis 7 ans sous le coup d'une condamnation à mort, ne veut pas entrer en territoire soviétique. Mais les agents de Trust, qui appartiennent en réalité à la GPU, insistent pour qu'il se rende à Moscou, où, lui disent-ils, tous les comploteurs l'attendent en héros. Sans doute flatté, Sidney Reilly accepte. Mais à peine a-t-il franchi la frontière qu'il est capturé par la GPU. Longtemps, les Soviétiques affirmeront que Reilly a été abattu d'un coup de fusil au moment où il passait la frontière. En réalité, l'espion est transporté à Moscou et emprisonné à la Lubyanka, où il est longuement interrogé.
Quel est votre nom et le nom de votre contact en Finlande ?
L'espion britannique, qui, on l'a vu, n'avait pas vraiment la fibre patriotique, n'a, semble-t-il, pas livré de renseignements à ses geôliers, malgré son effroi d'avoir subi plusieurs simulacres d'exécution. Le 5 novembre 1925, sur ordre de Staline, Reilly est finalement exécuté dans une forêt près de Moscou.
Un matin de novembre, alors qu'il faisait sa promenade quotidienne sur les collines de Vorobyovie, il fut abattu d'une balle dans la nuque par Ibrahim, le tireur d'élite du GPU.
Sidney Reilly laisse une veuve.
Your husband is dead, Mrs. Riley.
En réalité, il en laisse trois. Margaret, Nadeja et la troisième, Pepita Bobadilla, une actrice que le polygame avait épousée en 1923. Comme le corps de Riley ne sera jamais retrouvé, diverses rumeurs vont circuler sur son sort.
Et Riley, qu'est-il devenu ?
C'est rien du tout. Il est mort, certainement.
Il est mort en Russie ?
Je ne crois pas.
En 1932, Pepita Bobadilla prétend détenir des preuves qu'il est encore en vie. D'autres affirment que l'espion a survécu en faisant défection chez les Soviétiques. Mais curieusement, Sidney Riley connaît une seconde vie lorsque dans les années 1930, Bruce Lockhart publie ses mémoires et que la presse s'empare du personnage, racontant ses nombreux exploits dans des récits plus ou moins romanesques et le décrétant le plus grand espion de l'histoire. À la télévision britannique, en 1983, Riley devient le héros d'une série Ace of Spies. En URSS, il apparaît aussi dans de nombreux films, mais toujours dans le rôle du méchant. Les Soviétiques n'avaient pas oublié que Shlomo Rosenblum, alias Sidney Riley, avait tenté d'assassiner Lénine. Espion, une histoire vraie, de Stéphanie Duncan, est un podcast original de France Inter. Avec le comédien Kamel Isker, documentation Frédéric Martin, mixage Basile Bocquer, réalisation Fabrice L'Aigle.